On l'a évoqué hier dans les grandes gueules, cette lettre que le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, dans le sillage de l'affaire Liana, a envoyée à son homologue de l'intérieur, Place Beauvau, c'est-à-dire Laurent Nunez, pour pointer du doigt le manque d'enquêteurs, la faiblesse de leur formation dans le traitement des violences sexuelles. Et il pointait du doigt aussi dans ces histoires ce qu'on appelle les stocks de procédures fantômes qui attendent, qui n'ont pas été instruites, qui n'ont pas avancé. Du côté des policiers, on a poussé un sacré coup de gueule, tout syndicat confondu d'ailleurs, c'était à noter, pour dire de qui se moque Gérald Darmanin, quoi. Il a été notre patron et là il nous trahit, il nous met tout sur le dos en disant si les affaires de violences sexuelles n'avancent pas. Alors on a un ancien policier avec nous, de la police judiciaire, c'est Jean-Pierre Colombiès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes souvent sur les plateaux de BFM TV pour parler des enquêtes, vous êtes venu présenter ici vous-même votre livre. Et vous faites partie de ces policiers qui s'estiment aujourd'hui vraiment, enfin qui est en colère après ce qu'a dit Gérald Darmanin, pourquoi ?
Pas en colère seulement depuis que Gérald Darmanin s'est exprimé, je suis en colère depuis plusieurs années par rapport au désintérêt total des politiciens, des politiques de tous bords hein, d'ailleurs, par rapport vis-à-vis de la police judiciaire, vis-à-vis de la matière judiciaire. Moi ça m'étonne pas du tout parce que on voit bien qu'il y a une sorte de jeu de patate chaude, chacun essaie de se défausser sur les autres. Alors que tous, je dis bien tous, partagent la responsabilité de cet état des lieux. Vous parliez des syndicats de police. Je suis un petit peu surpris parce que ce sont les mêmes syndicats de police qui, il y a quelque temps, ont manifesté avec Gérald Darmanin, souvenez-vous, devant l'Assemblée nationale, contre la justice, oui. Estimant qu'il n'était pas...
Pour dire travail. Le problème de la police, c'est la justice.
Absolument. Et on avait un ministre de l'Intérieur. Moi, j'avais jamais vu ça. Vous savez, j'ai passé 34 ans dans la police. J'ai fait quelques manifestations parce qu'il se trouve que j'ai été délégué syndical. C'est la première fois que je voyais un ministre de l'Intérieur aller serrer des paluches à des manifestants qui venaient manifester contre l'institution, quelle qu'elle soit, que ce soit la justice ou la police. Mais je vais vous apprendre peut-être quelque chose. Et si je le fais, tant mieux. Est-ce que vous savez qu'il y a des services d'audit au ministère de l'Intérieur ? Est-ce que vous savez qu'il y a des services d'audit à l'IGPN ? Et que ces services ont pour vocation de faire l'état des lieux des dossiers en stock ? Pas depuis la semaine dernière, pas depuis l'affaire Liana, depuis toujours, depuis des années, c'est comme ça. On fait des bilans sur les stocks en cours. Donc quand je vois qu'il y a une sorte de jeu d'effarement, on joue à la Vierge effarouchée parce qu'on se rend compte qu'il y a des stocks considérables de dossiers en attente dans les services de police... Et ailleurs, du reste, et que le parquet s'en émeut. Bon, j'ai eu des réunions avec le procureur de la République de Paris, dans un service parisien, un commissariat parisien, parce que nous avions 13 000 dossiers en souffrance. Les fameux dossiers qui étaient, ils n'étaient pas fantômes, hein. Ils étaient là, bien rangés, dans une pièce aveugle. Personne s'en occupait. Ils dormaient là. Je parle pas d'agression de mineurs. Attention, là, je parle pas.
Oui, parce que là, on parle de violence sexuelle.
Oui,
c'est
non,
ça
non,
qui choque, quoi.
Là, je parle pas d'affaires gravissimes, mais quand même. Là où je veux en venir, c'est que vous avez un jeu qui consiste à gérer un stock ingérable de plaintes, de dossiers parqués, parce que quand il y a énormément de plaintes qui vont directement au parquet, et le parquet ne sachant pas en faire, parfois ne les lisant même pas, les transfère systématiquement au service de police. Donc on s'en inquiète pas plus que ça. On sait que ça va être enregistré, rangé. Mais
c'est pas de la faute des policiers là. Si ces plaintes n'avancent pas, si ces 1275 procédures à Nîmes ne bougent pas, 905 à Caen et qui concernent des affaires de violence sexuelle.
Et je termine sur ce stock. Vous allez comprendre pourquoi ça n'intéressait personne. Le service en charge de ces instructions parquet ne disposait d'aucun OPJ. Donc il était systématiquement obligé de faire appel à d'autres unités de la même entité pour régler les affaires.
C'est un manque de moyens, quoi.
Et bien sûr, un désintérêt surtout,
alors
un désintérêt total.
Du doigt.
Parce que c'est plus facile. C'est plus facile de se retourner finalement sur le dernier maillon de la chaîne. Vous savez, il y a toujours cette caricature de l'oiseau qui est au sommet de la pyramide et puis qui chie sur tous les autres. C'est exactement ce à quoi vous assistez. On règle des comptes parce que les uns comme les autres n'ont pas fait leur boulot. Tout simplement. Voire même, loi aggravée. Et là, je fais référence à la réforme de la départementalisation de la police judiciaire qui est une catastrophe qui a créé ce que moi j'appelle des baronnies policières. On a créé des postes de directeurs partout. Donc ça donne du grain à moudre au corps des commissaires notamment, qui à mon avis est bien mal inspiré aujourd'hui de pousser lui-même un coup de gueule. Parce que c'est eux qui ont en charge la gestion de tout ça. Et on s'est bien gardé au niveau ensuite des préfets de faire remonter cette information de non-gestion. Parce qu'il y a aussi un gros problème, pardon, de RH au niveau de la répartition des effectifs au sein de la police nationale. Il y aurait beaucoup à dire. Hein.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe là?
Moi, vu de l'extérieur, au moment de l'affaire Liana, je me demandais, Est-ce que le politique a pas trop mis la pression sur le narcotrafic au détriment de ses affaires de mœurs, quoi? Est-ce que ça a vraiment joué là-dedans, ou est-ce que c'est un système qui fait qu'on traite 10% des plaintes qui arrivent parce que il y en arrive trop et on a pas assez de bras pour les traiter, quoi?
Vous apportez un peu la réponse. C'est un système. C'est-à-dire que ça fait des années, une vingtaine d'années à peu près, qu'on a mis le paquet sur le maintien de l'ordre, service d'ordre, la voie publique, les arrestations, faire du chiffre. Voilà. Et le judiciaire, enfin, moi, j'ai été inspecteur. Je suis rentré dans la police comme inspecteur, pas comme officier de police. La nuance est importante. Mon métier, c'était l'investigation. Et il y avait des enquêteurs et des inspecteurs qui ne faisaient que ça. L'investigation. Parce que c'est un métier. On ne devient procédurier pas comme ça. Pas en formant des gardiens de la paix 4 mois avant leur sortie d'école. C'est un métier. C'est une spécificité. On ne devient enquêteur digne de ce nom qui commence à savoir à peu près de quoi il parle qu'au bout de 5 ans. D'exercice de son métier. Or, ce métier d'investigation n'intéressait pas les politiciens. Vous savez, ça a commencé avec la politique du chiffre, rappelez-vous, dans les années 2000, avec Nicolas Sarkozy, qui voulait du chiffre, du résultat. Sauf que ça s'est fait au détriment de la qualité. Donc, petit à petit, vous avez eu un délitement des vocations, de la technicité, qui a totalement disparu, et on n'en est qu'au début.
C'est-à-dire que, en fait, ce que vous dites, c'est que ces affaires qu'on dit être en stock de violences sexuelles, elles demandent une enquête.
Bien sûr.
Elles demandent de l'investigation.
De la spécificité.
Et donc, ouais. ça prend du temps. Et
bien sûr.
Ça, on l'a mis de côté, quoi, en fait.
C'est pas qu'on l'a mis
on
de côté.
On a priorisé, notamment. Comme le disait Didier, ouais, peut-être aussi, la voie publique, le stup, etc., quoi.
Oui, mais pas au niveau des enquêteurs, faut bien comprendre. Vous parlez des stups. Mais il y a régulièrement des priorités. Dès qu'il y a un événement un peu médiatisé, d'une agression, un coup de couteau par-ci, un coup de couteau par-là, un drame, on met la priorité, on met le focus là-dessus. Mais les enquêteurs sont les mêmes. Ce ne sont pas des gremlins.
Concrètement, c'est ça qu'on aimerait comprendre, nous. Concrètement, il y a des dossiers sur lesquels un enquêteur est, il le met sous la pile et il en ressort un autre parce que le politique a donné des ordres ou parce qu'il y a une affaire médiatisée ou grosso modo, les gens, ils font comme ils peuvent avec ce qu'ils ont.
Non, mais c'est ça. C'est surtout que vous avez les mêmes enquêteurs dont la pile de dossiers augmente régulièrement. C'est le tonneau des Danaïdes, mais un tonneau des Danaïdes qui déborde aujourd'hui. On est arrivé au bout d'un système. On va parler clair. Le système est à bout de souffle, concrètement. On a joué la montre. Parce qu'il y avait encore des enquêteurs qui étaient à peu près dignes de ce nom. Il y avait encore du monde un peu dans les services dits de PJ. Mais on vous ressort souvent, notamment, les recrutements qui sont faits par le ministère de l'Intérieur et le focus qui est mis. Mais c'est un faux problème, c'est pas vrai. Pourquoi je dis que ça n'est pas vrai? On vous annonce 8000 recrutements. Sauf que dans le même temps, il y a eu 10000 démissions.
Ça, c'est ce que dit Gérald Darmanin. Il a dit que quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'ai recruté 8000 personnes.
Oui, mais les amis où? C'est ça qu'il faut lui poser comme question. Il faut lui demander en parallèle combien il y a eu d'émissions. Qu'est-ce que vous priorisez réellement? Les CRS, le maintien de l'ordre, la brave M.
Alors, ils ont été mis où, les 8000, alors? Ils n'ont pas été mis en investigation, si je voulais dire.
Non, oui, mais on n'a jamais autant connu de démissions, de départs et de reconversions. Soit vers les polices municipales, parce que c'est plus souple en termes d'horaire et même en termes de rémunération. Parce qu'aussi, on ne valorise pas, on a dévalorisé la fonction judiciaire. C'est-à-dire que les meilleurs avancements, les meilleures primes vont vers les services de voie publique, essentiellement le maintien de l'ordre. Vous avancez moins en carrière quand vous êtes enquêteur dans un commissariat,
alors,
par exemple.
Alors, qu'est-ce que ça t'inspire, Joël, cette histoire?
Premièrement, ça m'inspire que je ne sais pas pourquoi M. Darmanin est encore en poste.
Il doit démissionner.
Il n'aurait déjà plus dû être là depuis qu'on a découvert tout ce qui se cachait derrière l'assassinat de la petite Liana. Je suis désolée, dans ce pays, il faut bien des responsables aux choses, et les responsables ne peuvent pas être les petits policiers. Et pardon, c'est pas dégradant comme ça, mais je veux dire, non, le fonctionnaire qui fait son métier dans le bureau, ça peut pas être toujours lui, en fait. Et là, ce qu'il nous explique, c'est que le responsable, c'est le fonctionnaire dans son bureau. Moi, je peux pas entendre ça. Oui, je peux pas entendre ça, notamment venant de Monsieur Gérald Darmanin, parce que Monsieur Gérald Darmanin, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, il est venu sur plusieurs plateaux, on l'a interrogé sur la police, sur les méthodes de la police, etc. Et il a toujours dit qu'il y avait zéro problème avec les méthodes de la police. Donc en fait, pour lui, sous sa direction, en tout cas, voilà, il n'y avait zéro problème.
Ça, c'est la règle d'or.
Il a dit, nous avons des soucis en matière de stock de dossiers, ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons, de formation. Non, zéro problème avec la police. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il nous balance? Il nous balance un rapport où, oh là là, tous les problèmes sont de la police. Écoutez, il faut aller se balader, enfin, nous les citoyens qui avons affaire au commissariat, etc. Moi, je suis déjà allée en commissariat, même pour porter plainte. Lorsque vous passez derrière, vous passez derrière parce qu'il prend votre plainte et tout. Enfin, vous sentez quand même que les gens ne travaillent pas dans des conditions optimales.
avec vous des le sentez, de ficelle,
ouais, vous le sentez qu'ils sont, ils sont 3-4 par bureau. Vous sentez que c'est pas des conditions normales pour traiter les plus gros problèmes de la vie des citoyens. Donc je suis désolée pour Monsieur Darmanin, même si je reconnais dans l'affaire Liana, Monsieur, que il y a eu des problèmes dans comment on a reçu les familles, notamment la maman de la petite Rosa, je crois. Mmh. Où on lui disait d'arrêter d'appeler, etc. Voilà, on sait qu'il y a eu quand même un traitement qui était peut-être des fois inhumain dans le traitement et tout. Mais moi, je mets ça aussi sur le compte. Bien sûr qu'il faut pointer ça, mais il y a aussi le stock, la pression. Moi, par exemple, sur un autre domaine, je travaillais dans le logement social qui est aussi encombré de demandes. Et j'ai toujours dit, quand je suis partie en Île-de-France, on avait 80 000 demandes sur le bureau. Et j'ai travaillé à une période où les gens ne saisissaient pas eux-mêmes leurs demandes, donc nous devions tout saisir à la main. Mais je vous assure, les délais étaient immenses. Les gens se plaignaient parce qu'en fait, ils disaient, mais comment ça se fait que ma demande, je la vois pas en ligne, etc. C'était horrible, la pression. Et donc, vous aviez des collègues, moi je le faisais, mais des collègues qui recevaient mal les gens, qui les envoyaient chier, carrément. Donc, Monsieur Darmanin, il doit pas être là, je suis désolée.
Ça changerait. Alors, excusez-moi, mais je comprends ce que vous dites, et c'est vrai que c'est le premier réflexe qu'on a, c'est qu'à un moment donné, il doit y avoir une responsabilité politique, et pas simplement morale. C'est pas le tout de dire, ouais, on savait pas trop. Non, non. Le problème, c'est que ça servirait à rien. Parce que c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est un problème de système. Ouais. C'est-à-dire que tant que vous avez un système qui se déculpabilise en permanence, lui, il est en bout de fil, en bout de chaîne, il est entouré de préfets qui ont le même réflexe de dire non, oui. Non, mais nous, on maîtrise notre secteur, rassurez-vous.
Oui. Et puis qui ont la trouille de se faire débarquer aussi.
Exactement, on les a menacés. Oui. Moi, j'ai connu des périodes au début du sarkozisme triomphant où il y avait des réunions mensuelles avec, sous l'autorité des préfets. Vous aviez le bonnet d'âne du chef de service qui était distribué si les chiffres n'étaient pas bons. Donc vous avez bien compris que dans cette configuration-là, c'était une course à l'échalote pour présenter des statistiques qui étaient à peu près valables. Donc on est dans cette configuration-là de dire non, mais tout va bien, on maîtrise. Parce que vous avez aussi l'arrière-pensée permanente qui est politique. Et là où je veux en venir, c'est que même si demain Gérald Darmanin présente sa démission, on est à 6 mois des élections présidentielles. Vous allez le remplacer par qui?
Oui. Qu'est-ce que ferait non, mais ce les affaires terrible, courantes quoi.
Qu'est-ce que ferait son successeur terrible, c'est que dans ses déclarations, il tape sur la police. Alors qu'il n'est pas ancien ministre.
Non, mais ancien ministre de l'Intérieur. On est bien d'accord. Ouais. Et que comme je vous l'ai dit,
il tape sur ce qu'il a fait.
Oui,
quoi,
et comme je vous l'ai dit, il y a des audits. Il y a des audits. Ouais. Cette situation, cet état des lieux.
Il la connaissait quand il était
le savait quand il était aux manettes.
Ce que j'explique dans le bouquin, ça tombe pas du ciel. Nous avons plus de 20 ans de désagrégation de la formation et de la matière judiciaire. Quand vous êtes ministre de l'Intérieur, je suis désolé. Si vous savez pas ça, faut aller planter des choux, hein. Bon, vous n'avez pas besoin qu'on vous aide dans cette matière. Mais à un moment donné, faut se regarder un peu dans la glace, quelque part. Vous savez que ça ne va pas. Vous savez qu'on recrute des gardiens de la paix à 5 et 6 de moyenne. Vous savez que la formation OPJ, elle est laissée pour compte. J'insiste là-dessus parce que c'était mon cœur de métier, on ne recrute plus et on ne forme plus d'enquêteurs spécialisés. Moi, mon rêve serait d'avoir une filière qui existe, une filière réelle de traitement du judiciaire, de la plainte au magistrat, et que cette filière, dans la mesure du possible, soit le plus autonome possible du politique, parce que ça la désengagerait des influences. Mais on en est très loin, puisque tout le monde marche à la baguette. Ouais. Tout le monde marche à la baguette ou sous l'objet de la menace. On parle de ça. On parle de menaces. Quand vous faites une procédure que vous estimez, vous savez que le parquet envoie parfois des dossiers, écoutez-moi bien, parce que c'est la réalité concrète, là, c'est du terrain, des dossiers prioritaires pour des contrefaçons de sacs Vuitton, 3 sacs Vuitton, c'est marqué priorité, à traiter en urgence. Vous ne croyez pas qu'il y a un problème ? Alors que par rapport à ça, vous avez des atteintes aux personnes, je ne parle même pas d'atteintes à des mineurs. Vous voyez, le sens des priorités, selon que vous soyez nanti ou pas, ouais. Eh bien, il est à géométrie variable. Donc c'est pour ça que chacun doit se regarder dans la glace, que ce soit au ministère de la Justice.
Donc il y a une vraie réforme à faire sur la
vraie révolution.
Antoine.
Est-ce qu'on vous utilise pas pour la carrière? Moi, j'ai l'impression quand même que ces politiques, Monsieur Darmanin, notamment au ministère de l'Intérieur surtout, utilisent les policiers pour leur carrière. C'est-à-dire que vous êtes un puissant levier pour atteindre un poste bien de sûr. Président plus tard.
Oui. Bah, vous avez un exemple célèbre.
Bah, oui, tout à fait.
Il a fait jurisprudence.
Est-ce qu'à ce moment-là, vous croyez encore aux ministres, à vos chefs, à vos ministres ou pas?
C'est une bonne question. Est-ce que vous croyez aux ministres ou c'est l'administration qui décide?
Je vais vous répondre très clairement. Il y a belle lurette que je ne fais plus du tout confiance aux politiques. Clairement. Quelques ministres que ce soit, sous quelque pouvoir que ce soit. Là, on se focalise sur Gérald Darmanin. On avait eu à l'époque Manuel Valls qui nous avait créé les ZSP, les fameuses zones de sécurité prioritaires sur le quart nord-est de Paris, 18, 19, 20. On sait très bien, en tant que professionnel, tout le monde le savait, que c'est un coup d'épée dans l'eau, parce que la criminalité s'adapte, elle évolue. Vous mettez de la focale sur un secteur, ils font quoi? Ben, ils vont ailleurs, tout simplement. Et c'est le problème pour les stupes. C'est exactement la même problématique pour les stupes, dont je parle longuement dans le bouquin, où j'explique que c'est insoluble du point de vue strictement judiciaire. Tout simplement, parce que ça répond à une mécanique sociétale qui nous dépasse largement, qui dépasse même le cadre des frontières nationales. Mais si vous focalisez sur le problème avec le petit bout de la lorgnette, vous n'avancerez jamais.
Antoine.
Jamais.
Je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit sur Gérald Darmanin. Je suis effectivement également fasciné par sa capacité à oublier qu'il a été ministre de l'Intérieur. Moi, ce qui m'intéresse de manière très concrète, c'est le fonctionnement de l'enquête. Parce que c'est quand même l'endroit où s'entremêle le travail du policier sous la supervision du juge et le commun des mortels. On voit pas comment ça peut se passer. Et pour orienter un tout petit peu ma question, je pense qu'il y a un besoin urgent de réforme de la procédure. Il y a des lourdeurs de procédures qui sont fabuleuses, qui font qu'on y arrive pas.
De l'administratif.
Il y a des moyens qui s'améliorent. Il y a un problème informatique fabuleux qui n'est pas résolu, mais il y a aussi un problème normatif où on devrait faciliter l'enquête.
Alors, il y a un double problème à ce niveau-là. Un, l'outil n'est pas suffisamment performant. La latitude d'enquête, elle est très limitée. Pourquoi ? Parce que les services de police ont une double casquette, particulièrement les services enquêteurs.
PJ.
Il y a un, le directeur d'enquête qui reste le magistrat, si vous ne vous rendez compte qu'au magistrat, et puis vous avez l'ordonnateur des moyens, qui est l'administration, le régalien, le corps. Bon, on va faire simple, le commissaire.
Le ministère.
D'accord.
Ouais.
Donc un policier lambda dans un commissariat lambda, il est sous l'autorité administrative et logistique des moyens.
Très clairement, le commissaire lui dit tu passes deux jours sur cette enquête et tu es surveillé par le magistrat sur les moyens.
Suivant le suivant, moi j'ai eu, je vais vous faire rire, enfin, j'espère sourire. Quand je suis arrivé à Neuilly-sur-Seine, on m'a un jour dit tiens voilà, ça c'est le dossier de X, procureur de la République de Nanterre. C'est son dossier, c'est pas le dossier d'un autre, son dossier. Son dossier, je commençais un petit peu à trembler. Qu'est-ce que c'est? Il y avait 10 plaintes dans ce dossier. C'était des plaintes d'enjoliveur.
De bagnole?
Oui monsieur, parce qu'il occupait une résidence. Et dans la résidence, dans le parking de sa résidence, on volait des enjoliveurs. Donc le dossier, la priorité du procureur de la République de l'époque, c'était...
C'est vieux l'histoire alors.
D'enquêter sur ces vols.
Et donc ça veut dire que ça perdure tout ça aussi. C'est le proc qui décide les dossiers qui sont prioritaires, de là où il faut mettre les moyens.
Il y a une puissance qui s'exerce. Donc le commissaire, qui est un homme très respectable, avec qui j'avais d'excellentes relations... Et voilà, c'est le dossier. Et on avait été reçu avec mon chef de d'unité à l'époque par le dit procureur dans son bureau qui voulait faire un point et qui était prêt à ouvrir une information judiciaire sur ces vols de 10 enjoliveurs. Je sais pas si vous réalisez.
Effectivement. Jean-Pierre Colombiès, merci d'être venu nous